Chers frères et sœurs, vous n'en êtes peut-être pas encore tout à fait conscients, mais cet épisode que nous venons d'entendre, qui met en scène le personnage Shimei, est un vrai bol d'oxygène. Et c'est d'ailleurs ainsi que finit ce passage biblique, par le fait que David puisse reprendre souffle. C'est un véritable bol d'oxygène dans cette atmosphère quand même assez irrespirable des livres de Samuel, où il n'est pas trop question d'amour du prochain, mais plutôt de rivalité, de lutte de pouvoir, de meurtre, et au fond, de toutes les violences coutumières de notre monde. Alors, j'aimerais vous montrer de quelle manière le personnage Shimei a été pensé par ce rédacteur pour introduire une action qui pourrait s'apparenter aux prémices d'une forme de démocratie libérale. Rien de moins. Alors bien sûr, je vois ces yeux exorbités qui vous font dire quel anachronisme. Plus tard, je vous expliquerai peut-être que ce n'est pas aussi anachronique que cela, mais j'aimerais traverser ce texte comme le font David et Shimei pour entendre peut-être les balbutiements de ce que pourrait être une démocratie libérale. Et voir quelle est une attitude plausible dans une situation marquée par un pouvoir centralisateur qui contrôle tout d'une main de fer. Tout d'abord, j'aimerais m'intéresser à l'attitude de David. Vous savez au moins que quelques chapitres auparavant, David n'a pas fait preuve d'une grande bienveillance envers Goliath. Il lui a coupé la tête. Et la suite fut du même acabit. David, c'est celui qui rapporte 200 prépuces de Philistins, qui n'ont pas été retirés avec le consentement des propriétaires. C'est celui qui a fait tuer Uri, le mari de Bethsabée avec lequel il avait couché. Avec laquelle il avait couché. C'est celui qui a fait tuer tous les fils de Saül, le roi qui était son rival, de façon à s'assurer qu'il n'y aurait pas de risque de renversement de son propre trône. On est donc en droit d'être étonné de la clémence de David envers Shimei. Il est particulièrement conciliant avec cet homme qui non seulement le maudit, mais en plus lui jette des pierres. Je veux dire, il ne fait pas monter les conseillers des hommes vaillants qui sont autour de lui. Là, ce serait vraiment un anachronisme de dire qu'il n'emploie pas le flashball ou d'autres armes de ce type-là. Mais on est quand même en droit d'être étonné que David, qui n'a jamais fait preuve de laxisme envers l'opposition, se retrouve à dire à ses proches qu'il ne faut rien entreprendre contre Shimei, et mieux de cela, il leur recommande, laissez-le. Laissez-le. Vous voyez, ça c'est une expression qui est au fondement même de nos démocraties libérales. Laissez-le est une expression qu'il faut entendre conjuguée à l'impératif et pas à l'infinitif. Laissez faire, laissez aller. L'impératif laisser-faire n'est pas un laisser-aller. Et ici, David n'est pas dans le laisser-faire. Il va proposer quelque chose de bien plus intéressant qu'une sorte d'indifférence. D'ailleurs, on constatera que David ne laisse pas son fils Absalom lui prendre tranquillement le trône et la vie. Il va réagir fermement. David ne restera pas sans défense, sans réaction, sans faire engager la bataille. Ainsi donc, David montre, en laissant faire Shimei, qu'il repère chez lui ce que j'appellerais un sentiment religieux qui l'anime, alors qu'il repère chez Absalom la soif du pouvoir. Le comportement de David ne sera donc pas le même dans les deux cas. Et justement, ce fait-là le fait qu'il réagisse de manière distincte selon les motivations des uns et des autres est déjà à prendre en compte pour comprendre ce qui se trame dans l'esprit de David. Le laisser-faire consisterait à n'avoir que de l'indifférence pour toute chose. Cela consisterait à ne dégager aucune priorité, à ne rien hiérarchiser, à ne se sentir impliqué en rien et n'avoir ni passion, ni désir, ni sens moral. Le laisser-faire, c'est le boulevard grand ouvert à toutes les incivilités et, finalement, à la violence du plus fort. Ce genre de laisser-faire est une dérégulation de l'histoire. Plus personne n'exerce son autorité, ni son esprit critique, ni sa faculté de jugement. Au contraire, l'impératif, laisser-faire, avec un Z, consiste à garantir la liberté pour que chaque individu puisse choisir de quelle manière il va pouvoir coopérer avec les autres. Et c'est ce qu'Édouard Laboulaye expliquait en 1863. Édouard Laboulaye est un homme politique, c'est lui qui a inspiré l'idée qu'on pourrait offrir le statut de la liberté aux États-Unis. Il est l'un des penseurs libéraux de la politique. Il écrit ceci. Laissez faire, au sens impératif, laissez faire, laissez chaque homme user honnêtement et comme il l'entendra, des facultés qu'il a reçues de Dieu. C'est un sénateur qui dit cela. Quand il pense la place de l'État dans le système politique de la France. C'est une manière de dire qu'il faut que l'État ne prenne pas toute la place. On dirait aujourd'hui, il faut qu'il se recentre sur ses missions régaliennes et qu'il laisse à ceux qui savent faire le soin de diriger les affaires dans le domaine où ils sont compétents. C'est déjà ce que le gendre, un marchand, avait dit à Colbert pour lui demander comment le gouvernement pourrait-il vous aider. Et le gendre, ce commerçant, lui avait répondu laissez faire ceux qui savent faire. Intéressons-nous maintenant à Shimei, et plus précisément à ce qu'il dit. C'est au verset 7. Il s'adresse à David dans ces termes, et on dépose d'assez amusant, c'est tsetse. C'est le verbe impératif, enfin c'est le mot impératif du verbe yassa sortir. Tsetse. C'est un peu comme si, alors c'est une étymologie complètement factice, mais c'est un peu comme si Shimei était la bouche du coche. Pour retenir. Mais c'est aussi tss. Ça ne va pas se passer comme ça. L'important est que Shimei dise à David de sortir. C'est étonnant parce que David est en fait déjà dehors. Il n'est pas chez Shimei, il est en train d'arriver dans ce village de Baorim. Alors comment comprendre cet ordre, cette invective donnée à David de sortir? Il y a tout d'abord la compréhension immédiate qui correspond à ce qui est souvent dit à quelqu'un qu'on ne veut pas voir, sort au sens de sort de ma vue. Nous avons peut-être des responsables politiques qui ont eu d'autres façons d'exprimer cela. Va-t'en. Une forme de féminisme. La deuxième compréhension, c'est de réaliser qu'à ce moment de l'histoire, David vient de pénétrer dans le territoire de Benjamin. Ce territoire qui correspond au royaume du Nord, territoire duquel était issu Saül, la famille qu'il a complètement massacrée pour s'assurer le pouvoir, famille dont est issu aussi Shimei. Et il n'est pas impossible, il fallait comprendre cette demande formulée par Shimei de sortir de ce territoire de Benjamin pour qu'il retourne chez lui sur le territoire de Juda, à Jérusalem. Et donc, cela consisterait à lui dire de sortir du royaume du Nord qui a saigné à blanc, et donc il a usurpé le trône, ce qui est le sens d'ailleurs des reproches formulés au verset suivant. Et dans ce cas, il me semble que Shimei aurait plutôt utilisé le verbe shuv, faire demi-tour, revenir, retourne où tu viens, rentre chez toi, shuv. Je pense qu'il faut aller sur une troisième compréhension, quoique les deux premières ne soient pas complètement aberrantes. Et une fois l'adoration est plutôt sur un mode existentiel, je pense. Non pas sort de ma vue, non pas sort de ce territoire qui n'est pas le tien, mais sort de toi-même. En d'autres termes, David sort de ce corps qui n'est pas le tien. Cette explication me semble plausible en raison du fait que le texte hébreu décrit l'action de Shimei avec le verbe kalal. Ce que nous traduisons par maudire, c'est le verbe kalal qui veut dire rendre léger, alléger. Alors bien sûr, vous voyez, quand on rend quelqu'un léger, eh bien forcément, ça veut dire qu'on l'humilie un peu. L'inverse, c'est de le rendre carreau, glorieux, puissant, lourd. Quand on dit de quelqu'un qui est une personne un peu légère, c'est pas forcément un compliment. Mais il me semble que le fait que Shimei maudisse au sens de rendre léger et dise à David, sors, sors, c'est une façon de l'alléger de ce qui lui pèse, de ce qui est pour lui comme un boulet dans sa façon de gérer les affaires de l'État. Il me semble que Shimei, en disant à David tsé-tsé, cherche à le débarrasser d'une part de lui-même. Cette part coupable qu'il dénonce d'ailleurs très clairement et qui fait de David un criminel. Et il me semble que nous avons là, de manière narrative, ce qui sera théorisé plus tard dans le Nouveau Testament par la question du pardon. Le pardon, c'est le fait de libérer quelqu'un de ce qui lui pèse, de ce qui l'empêche de pouvoir mener une nouvelle existence. Le libérer de ce qui le ramène toujours à la faute initiale. Ce stéréotype collé sur le front qui fait de nous à jamais le même personnage. Il me semble que Shimei propose au souverain de sortir de ce rôle qui tient et qui ne lui convient pas. De sortir de ce passé assez terrible alors que David a mieux à offrir, mieux à présenter. Il me semble que cet impératif lancé à David consiste à le faire sortir de son rôle de composition, son rôle social, à le faire sortir de ce qu'il pense devoir être son devoir de roi. Et Shimei dit à David de sortir de cette ornière politique, qui revient finalement à considérer que toute difficulté doit toujours être traitée de la même manière, par la violence. Shimei dit à David de sortir de ce schéma mortel, de ce stéréotype qui n'a rien d'évangélique. Shimei demande à David de sortir de cette fâcheuse habitude qui consiste à régler tous les problèmes en supprimant non pas les problèmes, mais en éliminant les personnes. Et il me semble que c'est cette attitude de Shimei qui inspirera plus tard Jésus dans l'évangile de Jean lorsqu'il dira à Lazare, sors. Et lorsqu'il dira à ceux qui l'entourent, le même ordre que David a prononcé, laissez-le. Ce qui se dit de la même façon dans le grec, que ce soit le grec de la Septante pour 2 Samuel 16 ou le grec du Nouveau Testament. Affecté à automne, laissez-le. Il me semble que cet épisode de Jésus et de Lazare donne bien le sens de cette rencontre de David et de Shimei, où il s'agit d'être délié de ce qui nous retient d'être nous-mêmes, de ce qui nous enferme dans une vision figée de notre personnalité. Dans le texte de Jean, Lazare a été placé dans un mémorial, un mémorial. Il est enfermé dans le passé. Il est condamné à n'être que ce qu'il a été jusque-là. C'est-à-dire une version définitive de son identité. Il est comme bloqué dans le passé. Sauf, peut-être une parole qui est comprise qu'on appelle à sortir du passé, à se libérer des stéréotypes, à se libérer des mauvaises habitudes, à se libérer des phobies. Sort, c'est un appel à ouvrir une nouvelle voie. l'accomplissement de son travail, de ses passions ou de sa propre vie. Sors de l'ornière, sors du mémorial dans lequel tu les embaumais, sors au grand air, sors de la grotte dans laquelle tu avais été enfermé, cesse de voir le monde uniquement à travers les ombres projetées sur la paroi de la caverne, dirait autrement Platon. Et David sort, comme Lazare est sorti. Il sort du rôle que tout le monde voulait lui faire jouer. Au fond, pour le dire très clairement, Shimei permet à David de sortir, de s'extraire du phénomène de cour. David sort de son rôle de composition en se libérant de sa propre cour. Contre l'avis de son conseiller Abishai, qui lui propose de couper la tête de Shimei dans un geste qui rappelle la décollation de Goliath, David épargne Shimei. Et il lui reconnaît même une fonction divine. En lui reconnaissant le pouvoir d'agir selon la volonté de Dieu, David reconnaît en Shimei une incarnation de la volonté de Dieu. David se démarque de son conseiller auquel il demande « Qu'ai-je à faire avec vous ? Quoi entre toi et moi ?» David échappe à sa cour. Il se libère du phénomène de cour par lequel les courtisans ne se demandent plus quel est l'intérêt général, mais qu'est-ce que le pouvoir veut bien entendre. Or, ce conformisme est proprement mortel. Ce phénomène de cour tue toute créativité, tout génie propre. Ce phénomène de cour consiste, comme vous le comprenez bien, à toujours caresser le patron dans le sens du poil, à apaiser ses inquiétudes. Et ça, vous voyez, c'est tout l'inverse de la foi. La foi, c'est une inquiétude irréductible envers autrui. La foi, ce n'est pas le repos éternel, c'est la vie éternelle. Et une vie un peu vivace, pas une vie paisible, tranquille. Il n'y a rien de pire que ceux qui ne font que confirmer ce que l'on sait déjà, sans apporter leur part personnelle à une meilleure compréhension de ce qu'est la vérité des situations, des personnes, de la vie. À quoi sert un conseiller qui ne dit que ce qu'on a envie d'entendre, ou que ce qu'on sait déjà? Voilà pourquoi nous pouvons nous demander si Shimei est vraiment en train de maudire David. Shimei n'était pas plutôt une source de bénédiction pour David, en lui permettant de sortir d'un faux pas politique. N'est-ce pas la vocation des conseillers de ne pas aller dans le sens du pouvoir, et de pouvoir exprimer une conviction forgée non pas en fonction de l'intérêt de caste, mais en fonction de ce qui nous semble être l'intérêt général, ce qui a pour nous valeur d'absolu, ce que la Bible désigne par le terme Dieu. Non pas ce qui m'arrange, mais ce qui vaut pour les uns et pour les autres. Je me demande si Shimei n'est pas une véritable source de bénédiction pour David, en lui permettant de retrouver le sens de l'humanité qui sied à sa fonction de Messie. Car David est Messie. Il a reçu l'onction, il est Christ. Le bénéfice de l'intervention de Shimei est double. Non seulement il permet à David de s'interroger enfin sur le sens des événements et de se demander « Peut-être l'Éternel regardera-t-il ma peine ?» Et fera-t-il revenir pour moi ce qui est vivable à la place de la malédiction de ce jour? David est en train de bouger, ou là, peut-être. Ses certitudes sont en train de s'ébranler. Ce qui était pour lui la doxa cesse de devenir une certitude. Et il peut penser à nouveaux faits. Il peut envisager une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle manière de se comporter avec les uns et avec les autres. Le deuxième bénéfice est de permettre à David de redevenir une âme. C'est ce qui est expressément dit au verset 14. Lorsque nos traductions disent qu'ils soufflèrent après cet épisode, le texte hébreu utilise le verbe nefesh. C'est le mot employé pour l'âme. Et dans le texte hébreu, c'est au singulier. C'est juste pour l'un d'entre eux, David. David, parce qu'il fait quelque chose de cette opposition. David, parce qu'il ne s'enferme pas dans un phénomène de cour. David, parce qu'il est finalement sensible à la question de l'ultime et de l'intérêt général. Redevient une âme. Un être tendu vers ce qui a un caractère ultime. Un être qui n'est pas animé par l'impératif hypothétique qui consiste à faire toujours du bien à quelques bandes pour obtenir ce qui l'intéresse. Un être animé par l'impératif catégorique, ce qui peut être communément partagé par tous. Alors, il y aura certainement pour vous tous qui êtes de sacrés herméneutes l'occasion de continuer l'interprétation de ce texte pour comprendre ce qu'aujourd'hui dans notre société française ce texte peut nous dire sur les fondements d'une démocratie libérale qui refuse d'accorder tous les pouvoirs à un seul groupe ou à une seule personne. Mais rassurez-vous, ce sera encore pire avec Salomon. Ici, David montre tout l'intérêt qu'il y a, justement, à ne pas s'enfermer dans ce qui pourrait devenir une sorte de tyrannie politique. Pour nous-mêmes, il sera intéressant de s'interroger sur notre capacité à laisser faire ceux qui savent, à laisser passer ceux qui sont porteurs d'une parole inspirée par Dieu. Comment nous laisserons-nous touchés par quelques paroles qui viennent de Dieu et dont nous avons bien besoin quand nous ne contentons plus que de nos propres paroles, de notre propre doctrine, de nos propres réponses. Là encore, il me semble que le geste de Shimei inspirera Jésus quelques centaines d'années plus tard, lorsqu'il sera dit que quand les paroles ne suffisent plus, les pierres peuvent prendre le relais. Alors, laissons faire ceux qui savent faire. Laissons passer ceux qui sont porteurs de paroles qui permettent de rendre à chacun la possibilité d'être à nouveau capable d'être une âme tendue vers ce qui est pour nous particulièrement sacré. Amen.